voix Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 16 décembre 2022, en direct de Washington, Idrissa Sédoulia. Les titres pour commencer, fin du sommet États-Unis-Afrique hier à Washington. Le président américain Joe Biden appelle à un rôle accru pour l'Afrique sur la scène internationale. Mondial, la France regoute à une finale. L'Argentine veut consacrer Lionel Messi comme digne héritier de Diego Maradona, tandis que le Maroc reste en course pour la troisième place face à la Croatie. Le groupe paramilitaire russe Wagner au Burkina, le président ghanéen l'affirme. Nous n'avons aucune réaction, dit Ouagadougou. Le président sud-africain, favori pour rester au pouvoir, malgré un scandale, réunion à partir d'aujourd'hui de l'ANC au pouvoir. C'est par un appel de Joe Biden pour une Afrique plus prépondérante sur la scène internationale que s'est refermé le deuxième sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Le président américain a prononcé deux discours lors de la dernière journée. Le premier sur l'agenda 2063 de l'Union africaine et le second sur la sécurité alimentaire. Le point avec Abdulrahman Dia.
La série d'annonces sur l'assistance que les États-Unis comptent apporter à l'Afrique s'est poursuivie au dernier jour du sommet. Le président Joe Biden a déclaré qu'une enveloppe de 2,5 milliards de dollars serait destinée à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Mais Washington veut aller plus loin en promettant d'assister l'Union africaine à assurer une pérennité agricole sur le long terme pour aider le continent à atteindre son objectif de souveraineté alimentaire. Plus tôt dans la journée d'hier, lors d'une réunion sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, le locataire de la Maison-Blanche a réitéré l'engagement des États-Unis à soutenir l'Union africaine dans sa quête d'intégrer les instruments de la gouvernance mondiale comme le Conseil de sécurité avec un siège permanent et le G20.
Africa belongs to the table in every room.
L'Afrique a sa place partout où sont discutés les défis mondiaux et dans toutes les institutions où se déroulent les discussions. C'est pourquoi j'ai annoncé en septembre à l'Assemblée générale des Nations unies que les États-Unis soutenaient pleinement la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU afin d'y inclure une représentation permanente de l'Afrique. Et aujourd'hui, j'appelle également l'Union africaine à rejoindre le G20 en tant que membre permanent.
Joe Biden a aussi indiqué que Washington entendait poursuivre son appui à la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. Pour sa part, le président Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine, qui s'est exprimé au nom de ses homologues africains, a énuméré 6 priorités sur lesquelles l'Afrique demande l'appui des États-Unis. Il s'agit de la paix, la sécurité et la lutte contre le terrorisme en Afrique, la réallocation partielle des droits de tirage spéciaux, un engagement plus soutenu des États-Unis dans l'investissement sur les infrastructures de développement, un appui des États-Unis pour faire face au changement climatique et enfin la souveraineté alimentaire. Le sommet se termine donc avec des engagements forts de l'administration Biden qui entend mettre en exergue sa présence diplomatique et économique sur le continent dans un contexte de poussée chinoise et russe, même si ces deux puissances n'ont pas occupé une grande place dans les débats.
Ajoutons, Abdou, que le président Biden a promis de se rendre en Afrique subsaharienne, possiblement dès l'année prochaine, ce qui serait la première tournée africaine à ce niveau depuis Barack Obama, qui s'était rendu au Kenya et en Éthiopie en 2015. Nous allons tous aller vous voir et vous allez tous nous voir beaucoup, a-t-il déclaré devant les chefs d'État et de gouvernement de 49 pays africains dans la capitale américaine. M. Biden n'a pas évoqué de date ni les pays qu'il entendait visiter, en soulignant que certains États africains l'avaient invité et qu'il leur avait répondu en ces termes « Prenez garde à ce que vous demandez, je pourrais bien venir ».
La voix de l'Amérique, Bondi 101.7 FM.
Les derniers militaires français déployés en Centrafrique ont quitté le pays jeudi en retrait décidé par Paris face au rôle grandissant du groupe paramilitaire russe Wagner et qui survient quelques mois après le départ de l'armée française du Mali. Et ce au terme du divorce consommé entre Paris et la junte au pouvoir à Bamako, qui a également choisi de se rapprocher de la Russie pour qu'elle aide à sécuriser le pays. Selon Paris, il s'agit là aussi de mercenaires de Wagner, ce que Bamako dément, évoquant le recours à des instructeurs russes. Concernant toujours Wagner, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a affirmé mercredi que son voisin, le Burkina Faso, avait conclu un arrangement avec le groupe paramilitaire russe. Une déclaration que le gouvernement de Ouagadougou n'a pas souhaité commenter jeudi, Jacques Aristide.
Le Burkina Faso a désormais conclu un arrangement pour, comme le Mali, employer des forces de Wagner. Je crois qu'une mine dans le sud du Burkina leur a été allouée comme une forme de paiement pour leurs services, a déclaré Nana Akufo-Addo lors d'une entrevue aux États-Unis avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Selon le chef de l'État ghanéen, les mercenaires russes sont à la frontière nord du Ghana, ce qui est particulièrement inquiétant. Nous n'avons aucune réaction, je lui laisse la responsabilité de ce qu'il a dit, a répondu à l'AFP le porte-parole du gouvernement burkinabé, Jean-Emmanuel Ouédraogo. Il n'a pas non plus voulu commenter le communiqué du ministère russe des Affaires étrangères sur une rencontre lundi à Moscou entre le premier ministre burkinabé, Apollinaire Kyelem de Tembela, et le numéro 2 de ce ministère. Pour sa part, le secrétaire d'État Blinken a déclaré lors d'une conférence de presse en clôture du sommet États-Unis-Afrique à Washington, « Dès que Wagner se déploie, les pays se trouvent dans une position plus faible, plus pauvre, moins en sécurité et moins indépendants. Nos partenaires africains nous disent qu'ils ne veulent pas voir leurs ressources se faire exploiter, ils ne veulent pas que les droits humains soient bafoués, ils ne veulent pas que leur gouvernance soit sapée, donc au bout du compte, ils ne veulent vraiment pas de Wagner », a ajouté Anthony Blinken.
Concernant la République démocratique du Congo, le chef de la diplomatie américaine a appelé le Rwanda à user de son influence sur le mouvement rebelle M23. Anthony Blinken a également dit soutenir pleinement l'accord de Luanda afin de trouver une issue à ce conflit dans l'est de la RD Congo. Une grande partie de cela dépend du retrait du M23 et nous attendons du Rwanda qu'il use de son influence sur le M23 afin d'encourager cela et de faire avancer les choses, a ajouté M. Blinken. Au Sénégal, les deux députés de l'opposition qui ont frappé une collègue de la majorité à l'Assemblée nationale ont été écroués jeudi à Dakar et seront jugés lundi pour coups et blessures volontaires, a-t-on appris auprès de leur défense. Massata Samb et Mamadou Niang ont provoqué un éclat national le 1er décembre lorsque le premier a giflé la parlementaire Amine Niaye. Et le second lui a décoché un coup de pied au ventre en pleine session et en public. Il lui reprochait d'avoir tenu des propos irrespectueux contre le chef religieux dirigeant leur parti. En Afrique du Sud, l'ANC, le Congrès national africain, parti historique au pouvoir, se réunit ce vendredi pour choisir son prochain leader et probable futur chef d'État. Quelques jours après avoir écarté la menace d'une procédure de destitution contre son favori, l'actuel président Cyril Ramaphosa, il est accusé d'avoir tenté de dissimuler le vol de liasses de dollars cachées dans un canapé dans l'une de ses propriétés en 2020. L'enquête de police est en cours, le président n'a pas été inculpé à ce stade. Cyril Ramaphosa, 70 ans, est en bonne voie pour conserver la présidence du parti et décrocher un second mandat si l'ANC remporte les élections générales de 2024. Son seul rival à ce stade, loin derrière, est son ancien ministre de la Santé, Zweli Mkhize, 66 ans. le chef du gouvernement libyen basé à Tripoli, Abdel Hamid Dbeiba, est sorti de son silence jeudi pour confirmer et défendre, face aux critiques virulentes de rivaux politiques et de défenseurs des droits de l'homme, la livraison aux autorités américaines par son gouvernement d'un suspect dans l'attentat de 1988 au-dessus de Lockerbie en Écosse. Et maintenant, le journal de la Coupe du Monde Qatar 2022 d'Eric Manirakiza.
Les Lions de l'Atlas disputent demain samedi la petite finale contre la Croatie pour monter sur le podium en cas de victoire. Le Maroc et la Croatie se battront comme si c'était pour leur vie, car gagner une médaille fait de vous un héros immortel, Idrissa. Les deux adversaires sont désormais dans la lutte pour la médaille de bronze. Suivez au micro de Amin Birouk, notre consultant sportif, le capitaine du Maroc, Romain Saïs.
C'est pas fini, il reste encore un match. Une troisième place à aller chercher, ça serait magnifique. C'est quelque chose qu'il faut qui doit nous servir pour le futur, Inch'Allah. Les autres compétitions, que ce soit les prochaines Coupes du Monde, les prochaines Coupes d'Afrique, que voilà, tout est possible dans le football quand on fait ce qu'il faut, on a l'état d'esprit, l'envie de tout donner sur le terrain. Et que voilà, on ramène des trophées au Maroc, Inch'Allah. Et puis voilà, après, voilà, je veux juste dire un grand merci à tous les Marocains, parce que voilà, ils nous ont été d'une aide très précieuse tout au long de la compétition. Il ne fallait pas baisser la tête et se dire que parce qu'on a perdu, tout est fini.
En finale dimanche contre la France, Lionel Messi rêve sans doute d'inscrire ses pas dans ceux de l'Espagne de ses anciens coéquipiers au Barça, Xavi et Andrés Iniesta, seule nation sacrée dans un mondial malgré une défaite inaugurale. À Rio de Janeiro, ce duel illustre la traditionnelle rivalité qui oppose Brésiliens et Argentins. Pour ceux qui soutiennent l'Argentine, il semblait que ce soit plus un encouragement individuel pour Messi. Suivez.
C'était censé être le Brésil et l'Argentine, mais cette fois, je vais devoir laisser derrière moi cette rivalité contre l'Argentine à cause de Messi.
Aujourd'hui, j'encourage Messi, je n'encourage pas l'Argentine. Je veux que ce titre qui va être disputé entre l'Argentine et la France revienne à Messi. Parce que je pense que Mbappé est très gâté. Je sais qu'il sera l'un des meilleurs du monde dans le futur, mais dans cette saga entre Messi et Cristiano Ronaldo, j'espère que Messi sera sacré champion du monde.
Je vais encourager l'Argentine, mais pas pour eux, plutôt pour Messi, pour ce qu'il a fait dans le football. C'est un phénomène.
Je suis pour la France parce qu'il n'y a pas d'autre choix. L'Argentine est notre rivale, nous devons soutenir la France. Et les fans du Paris Saint-Germain sont aussi alliés aux fans de Fluminense.
Des supporters ivoiriens réagissent également à cette finale tant attendue.
Je supporte la France parce que la France est une grande équipe de football grâce à leurs capacités, leurs performances de jeu. Voilà. Et nous allons croiser l'Argentine en finale le dimanche. Ça sera vraiment un match de ouf. Parce que la France est une équipe d'expérience. Déjà 20 ans de la Coupe du Monde en 2018.
La Coupe du Monde s'achemine donc vers son dénouement. Le Maroc a brisé un plafond de verre en devenant le seul pays africain ou arabe à parvenir en demi-finale d'un mondial. Le parcours de l'Argentine jusqu'à cette finale face à la France porte la marque profonde de Lionel Messi, buteur, passeur et leader technique et mental d'un groupe au talent par ailleurs limité. Suivez le coup de sifflet de Jules Valentin Gouet.
Bonjour. Troisième ou quatrième place pour le Maroc demain contre la Croatie, peu importe. Puisque le bilan africain de cette 22e Coupe du Monde de football peut d'ores et déjà être qualifié d'exceptionnel. Il y a bien sûr cette présence historique du Maroc dans le carré d'âge de la compétition. Mais il y a aussi la qualification simultanée de deux formations africaines au second tour, et plus encore, le fait que les cinq représentants africains étaient encore qualifiables lors de la dernière journée de phase de poule, quatre d'entre elles ayant même gagné ce dernier match, contrairement au coup d'éclat épisodique constaté lors des précédentes éditions. Puis série sur le gâteau, les cinq représentants du continent sont encadrés par des sélectionneurs locaux qui se sont illustrés par des stratégies et des coachings gagnants, inversant même certaines situations périlleuses. Bref, l'Afrique n'a plus de complexe et c'est en vue des échéances futures qu'elle va suivre attentivement la finale de ce marathon dimanche entre l'Argentine et la France, deux équipes aux dispositifs tactiques similaires, mais aux qualités individuelles différentes, et comme d'habitude, malheur aux vaincus.
Les Français partent avec un handicap majeur.
De nouveau avec vous, Idrissa Sebulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le sommet États-Unis-Afrique s'est achevé hier à Washington sur le thème de l'insécurité alimentaire aggravée par la guerre en Ukraine. La veille, le président américain Joe Biden avait plaidé pour un vaste partenariat avec le continent africain. Son administration entend dégager 55 milliards de dollars pour l'Afrique d'ici 3 ans dans des domaines aussi variés que le numérique, les infrastructures, la santé ou la transition énergétique. Pour faire le bilan du sommet, Mohamedou Houmfa a joint René Lake, analyste politique basé ici même à Washington.
Le principal point, c'est d'abord de retenir que l'Amérique est sérieuse dans son réengagement, hein, parce qu'avec l'administration Trump, il y a eu une sorte de distance qui s'est installée. Trump n'était pas tellement favorable au multilatéralisme, n'était pas particulièrement favorable également à un engagement avec l'Afrique, et c'est tout à fait le contraire avec Biden. Et c'est un réengagement sur les 4 piliers un peu de la stratégie américaine pour l'Afrique. La question du numérique, la question de la protection climatique, la question de la sécurité, bien entendu, qui est peut-être le point principal, et également des échanges commerciaux, secteur privé.
Est-ce que vous avez l'impression que les dirigeants africains repartent convaincus que Washington est redevenu un partenaire de premier plan?
C'est difficile à dire. Je n'ai pas un échantillon de réaction suffisant pour pouvoir apprécier, pour pouvoir dire si les 55 milliards de dollars annoncés sur 3 ans par Biden, quel type de réaction cela a produit chez les Africains. D'un côté, la somme paraît importante. D'un autre, ce n'est que très relatif, hein, si l'on considère les besoins aujourd'hui en Afrique, notamment en matière de sécurité alimentaire, en matière de sécurité sanitaire et bien entendu de sécurité militaire. C'est vrai que ça peut ne pas être très significatif. C'est vrai que bon, booster les économies africaines peut être déterminant dans les stratégies de développement des pays africains. Mais je crois que globalement, c'est mieux que rien dans tous les cas.
Il semble que les questions de démocratie et de droits de l'homme aient été reléguées au second plan. Est-ce que c'est votre constat et pourquoi?
Oui, tout à fait. C'est un peu la stratégie Biden. Ils n'ont pas choisi d'inviter juste des pays qui étaient dans la bonne gouvernance ou des pays qui répondaient un peu aux critères des indicateurs du MCC, du Millennium Challenge Corporation, Millennium Challenge Account, où on choisit des pays en fonction de leurs efforts en matière de bonne gouvernance. Ils ne sont pas allés sur cette voie-là. On est resté dans une approche très générale de multilatéralisme parce que Biden en est le champion. Hein. Il croit beaucoup à l'harmonisation des positions américaines avec ceux de la CDAO, ceux de la SADC, avec ceux de l'Union africaine. L'administration n'a pas fait l'option de trier sur le volet les pays où il y avait plus d'efforts en matière de droits humains et de droits et de bonne gouvernance.
Le sommet s'achève dans. Quelles seront, selon vous, les suites? Comment est-ce que Washington peut faire pour renforcer les liens avec le continent dans un contexte de concurrence avec d'autres puissances?
Je pense que les États-Unis sont sur la bonne voie. Il faut aller plus loin en termes d'engagement déjà sécuritaire. Bon, je crois qu'il y a une demande d'engagement plus importante en matière d'intelligence, de sécurité, de formation militaire, notamment dans le Sahel. Bon, l'autre attente, c'est vraiment la question du renforcement des relations commerciales. Alors, espérons que la VOA qui se termine en 2025, est-ce qu'il va y avoir une extension? Ou est-ce qu'on va trouver un mécanisme différent, encore plus agressif, voire renforcer les relations commerciales? Je ne saurais répondre pour l'instant, mais c'est un peu dans cette direction-là, il me semble que les choses devraient aller.
René Lake, analyste politique basé à Washington. Ce sommet États-Unis-Afrique, qui s'est donc terminé hier jeudi à Washington, a permis aux délégations de près d'une cinquantaine de pays du continent de parler de sécurité, santé, changement climatique et aussi économie, une économie minée par une corruption endémique en Afrique. Gabriel Ruffieri, le président de l'OLUCOM, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au Burundi, qui était invité aux assises, souligne que la corruption freine la croissance économique et entraîne, entre autres, un gaspillage de compétences et de ressources. Il dit qu'il attend de Washington une assistance multiforme dans la lutte contre ce fléau. Au micro de Nani Talani, Gabriel Ruffieri.
Nous attendons des États-Unis le rappel des valeurs démocratiques que les États-Unis défendent, parce que ce sont des valeurs qui aident l'Afrique pour avancer les principes démocratiques. Je sais que les présidents africains, quand ils viennent ici, souvent, ils attendent seulement les promesses. Il y a des milliards de dollars qui ont été promis, mais ce que les Africains oublient souvent, ce sont les principes de bonne gouvernance.
Quelle est la situation au Burundi?
Nous avons des dirigeants à tous les niveaux qui confondent, dans la plupart des cas, le patrimoine national avec le patrimoine, ce qui met à genoux les citoyens, malheureusement. Nous voyons que aux États-Unis, dans l'administration, un peu partout, il y a des principes de gestion qui sont garantis. Donc, nous pensons que nous avons beaucoup, beaucoup de choses, nous, en tant qu'Africains, à apprendre ici.
Pourquoi la corruption est-elle si répandue sur le continent africain?
Les dirigeants africains n'ont pas ces valeurs de gouvernance. Et les citoyens, malheureusement, ne sont pas éveillés pour dire non aux dirigeants corrompus. Vous savez, avec nos critères, où nous considérons qu'un dirigeant, c'est comme un dieu sur terre, alors qu'il est humain. La raison pour laquelle il doit y avoir des institutions fortes au lieu d'avoir des individus forts. Et le principe de séparation des pouvoirs, normalement, devrait être garanti pour que on puisse bâtir ce que nous appelons, dans les jargons de la gouvernance, le système national de l'intégrité.
Que faire pour combattre efficacement la corruption?
Il faut vraiment qu'il y ait une école pour diriger les autres, comme on le faisait dans l'Antiquité. Ça, c'est un. Deux, il faut qu'il y ait séparation des pouvoirs en Afrique. La justice fait son travail, le Parlement fait son travail, l'exécutif est de même, mais aussi les médias indépendants et la société civile indépendante. Actuellement, les gouvernements corrompus misèrent les médias, ils ne veulent pas que les gens puissent s'exprimer librement. Et vous le savez, là où il n'y a pas de la liberté d'expression, eh bien, c'est très difficile de combattre la corruption. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on va dire aux autorités américaines. C'est vrai, il faut coopérer avec les Africains, mais il faut exiger qu'il y ait le respect des principes de bonne gouvernance, parce que l'argent qui est donné, que ce soit par les contribuables africains ou par les contribuables américains, ça devrait servir pour développer nos pays respectifs, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Tout cela, en fait, dépend des leaders qui n'ont pas de vision.
C'était Gabriel Ruffieri, président de l'OLUCOM, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au Burundi, un des invités au sommet États-Unis-Afrique à Washington. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a participé à ce sommet. Son pays se bat sur deux fronts contre des groupes djihadistes dans le sud-est, dans la région de Diffa, proche du Nigeria, et dans la région de Tillaberi, dans l'ouest, proche du Mali. Dans cette dernière région, même s'il y a ces derniers temps une baisse des attaques meurtrières, plus de 800 écoles sont fermées. Que vont devenir les enfants de la région dans 10 ans? Écoutez cet entretien entre Idriss Fall et le président nigérien Mohamed Bazoum.
Nous ne les avons pas abandonnés. D'abord, nous essayons au maximum d'éviter aux populations de quitter. Et quand elles quittent aussi, nous faisons tout pour les ramener. Nous avons la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix qui fait ce travail pour maintenir sur place les populations, qui met en œuvre des projets de relèvement dans la zone. Nous avons un grand soutien de nos partenaires, notamment de l'Union européenne, dans les entreprises de ce genre-là. Évidemment, comme les villages sont très éloignés les uns des autres, il est difficile de faire en sorte que tous, on leur assure une sécurité qui ne permette pas que, par à-coup, des terroristes viennent poser des actes de violence. Nous pratiquons une politique de regroupement des enfants des villages qui ont bougé et où les écoles ont été fermées. L'an passé, nous n'avons pas pu tout à fait mettre en œuvre cette politique de façon satisfaisante, mais cette année, nous le ferons parce que nous avons pris les dispositions nécessaires à cet effet. Donc ces enfants-là, pour la plupart, ils ne seront pas à l'abandon, mais ils seront pris en charge. Mais ce que je veux vous dire, c'est que au Niger, la tendance est au retour des villages parce que nous la favorisons, parce que nous réconcilions les communautés aussi. Parfois, malheureusement, les exactions des terroristes ont un effet qui consiste à créer beaucoup de tensions entre les communautés. L'ensemble de notre action va contribuer à faire en sorte que nous minimisions les effets néfastes des agissements des terroristes.
Je vais dans le sud-est, dans la région de Diffa, beaucoup de réfugiés nigérians ont été ramenés chez eux. Ils retournent dans les zones comme Damasak et ils sont encore livrés à des massacres du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, à des massacres de Boko Haram. Est-ce que ce n'est pas jeter les populations réfugiées dans la violence?
Non, vous vous trompez. Le gouverneur de l'État de Borno, le professeur Zulum, est quelqu'un de très sérieux. Il a très tôt compris, aussitôt qu'il avait été élu, que les terroristes veulent des déserts, des tables rases, des zones qui ne sont pas habitées parce que tout simplement ils se livrent à des activités économiques criminelles comme la pêche en imposant aux paysans de travailler pour leur compte. Et donc si les populations sont sur place et qu'elles mènent leurs activités, les terroristes ne peuvent pas se mouvoir à leur guise, ne peuvent pas avoir le monopole des activités économiques. C'est pourquoi ils sont farouchement opposés au retour de populations. Mais le gouverneur se bat, il ne livre pas les personnes qu'il ramène aux terroristes. À chaque fois qu'il y a une action où la population doit bouger et se réfugier une fois encore au Niger, il y consent. Mais dès qu'il a la capacité de les ramener, il les ramène.
Mohamed Bazoum, président du Niger.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Togo, les magistrats des hautes cours de justice des pays francophones discutent de la problématique des révisions des constitutions en Afrique. S'il est admis que les constitutions ne sont pas figées dans le marbre, la fréquence avec laquelle elles sont révisées dans les pays francophones d'Afrique inquiète. De Lomé, notre correspondant Kossi Wosou.
Les constitutions peuvent subir des modifications pour une adaptation à l'évolution de la société, mais il semble que les pays francophones d'Afrique en raffolent un peu trop. Fabrice Okebi, professeur de droit public.
Dans les 88 États francophones, sur les 10 dernières années, seuls 30% des États ont procédé à des révisions de la constitution. Mais ce chiffre monte à 70% quand on considère uniquement les pays d'Afrique francophone.
Abdoulaye Yaya, président de la Cour suprême du Togo, s'interroge alors sur le caractère sacré qu'on attribue aux lois fondamentales.
On parle de la souplesse, n'est-ce pas, ici de la flexibilité. La flexibilité qui est un démenti à la rigidification. Dans ce cas, la conclusion finale que je me tire, qui me fait peur, c'est que quid de la sacralité? Est-ce un mythe ou de réalité?
Sur cette interrogation, Abraham Zinzindowe, l'ancien président de la Cour suprême du Bénin ne se fait pas d'illusions.
Quand on observe un peu ce que nous avons vécu depuis le renouveau constitutionnel, quand on me parle de sacralité, mythe ou réalité, j'ai tendance plutôt à dire que c'est un mythe.
Cela étant, Nadjombe Gbeou Kpaile de l'Université de Kara au Togo estime que les révisions constitutionnelles répondent souvent à des considérations peu orthodoxes.
En Afrique, les révisions constitutionnelles sont caractérisées par leur objet peu licite et controversé, auxquelles sont réalisées dans des conditions douteuses. Elles sont en réalité au fond le résultat de l'inversion du rapport de force entre le droit et la politique.
Pour le Premier ministre du Togo, la sacralité des constitutions africaines n'offre pas toujours l'occasion au pouvoir public de mener des réformes rapides et nécessaires pour le développement du pays. Victoire Tomega Dogbe.
Quand nous observons les textes qui régissent notre fonctionnement, ils sont certainement conformes à ce qui se fait ailleurs dans le monde, mais n'offrent pas toujours l'agilité nécessaire à un développement rapide et satisfaisant.
Kossi Oussou Lomé pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde d'aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Segulia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, à la console, Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.